Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Mag vous fasse, en direct de la maison, de la radio et de la musique, le tout nouveau nom de notre belle maison. C'est une sensation pénible, cette impression que le sol se dérobe sous vos pieds, cette boule au ventre qui vous oppresse, ces mains moites qui donnent l'impression d'avoir plongé vos mains dans une bassine d'huile, c'est ce cœur qui palpite trop fort comme si vous étiez au bord d'un malaise cardiaque, le trac, cette angoisse avant d'affronter le public ou avant une épreuve importante, à l'occasion du grand oral du bac, d'un discours de mariage, d'une présentation d'entreprise, d'une montée sur scène, nous allons vous donner des clés pour vivre avec votre trac. Et comment le surmonter. Racontez-nous votre expérience du trac et comment vous l'avez défié sur la page Facebook de l'émission, sur l'appli France Inter et au standard 01 45 24 7000. Les élèves de terminale peuvent nous appeler. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Notre amie Françoise Hardy est... le trac, hein, il faut bien le dire.
Toujours.
Elle a toujours le trac, surtout en direct, comme ça. Et alors, elle s'était enfermée dans sa loge, et puis on n'a pas osé la déranger jusqu'au début de l'émission. Alors, qu'est-ce que ça vous fait, le trac? Quelle impression avez-vous?
C'est-à-dire que j'ai le trac parce que j'ai peur d'avoir des trous de mémoire et de mal chanter, et je chante mal, j'ai des trous de mémoire parce que j'ai le trac.
Ah, c'est compliqué, ça. Non, parce qu'il y a différentes sortes de tracks. Vous savez, il y a le track qui vous prend avant. Une fois qu'on est sur scène, on oublie son track.
Ah non, alors moi, c'est tout le temps. C'est avant, même une semaine avant, je veux dire.
Je crois, d'ailleurs, vous savez que Marguerite Moreno disait quand on a le cœur bas et qu'on a le track, c'est signe de talent. Ben, moi, je le crois en ce qui vous concerne.
Ah, j'ai énormément de talent.
Mais je n'en doute pas, d'ailleurs, vous n'en doutez pas non plus.
Françoise Hardy au micro de Roger Lanzac, le 21 janvier 1968. Bonjour Romain Le Saffre.
Bonjour.
Vous êtes membre du groupe Hernadette, sous le nom de Château Brutal, et vous avez enquêté sur le trac avec ce livre assez formidable, très pédagogique, qui vient de sortir chez Marabout, L'étonnant pouvoir du trac et autres effets secondaires. Un titre étonnant, hein, le pouvoir du trac.
Bah oui, parce qu'on pense toujours que le trac c'est quelque chose de négatif, c'est mal, c'est nul de l'avoir. Alors qu'en fait, c'est génial le trac. Le trac, ça vous dit que vous êtes là et que vous devez être présent pour faire quelque chose d'important pour vous. Donc c'est génial.
Vous avez le trac là ?
Un peu, oui, bien sûr.
Bonjour Constance Flamand-Rose.
Bonjour.
Vous êtes docteur en neurosciences, orthophoniste, hypnopraticienne, spécialisée en neurologie. Et vous aviez publié il y a quelques années « Le corps est le seul langage qui ne ment pas ». Pas de trac sans sensation corporelle. On va y revenir largement dans cette émission.
Hein. Exactement, tout ce que vous avez cité tout à l'heure.
Oui. Vous le ressentez là ?
Absolument pas.
Bon, mais parfait. Bonjour Charles Laroche.
Bonjour.
Vous êtes avocat, vous enseignez la rhétorique à Sciences Po et vous avez publié chez First le grand oral du bac pour les nuls. Et vous, le trac, c'est votre quotidien ou vous le surmontez assez facilement ?
Ah, toujours. Bah, il faut le surmonter ou en tout cas, il faut l'utiliser. Je ne sais pas dans quel mot est le plus approprié. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de grands avocats qui conseillent d'avoir le trac. Enfin, Éric Dupond-Moretti, je crois, dans sa biographie, disait qu'il vomissait avant les assises. Ouais. Donc, quelque part, si même lui le fait, je pense que les élèves ont le droit, en tout cas, de dire avoir le trac.
Et vous, Romain Le Saffre, vous avez interviewé plus de 50 personnalités qui vous parlent du trac. Hein.
Oui, c'était assez magique, parce qu'ils m'ont tous livré des choses assez facilement sur leur trac, et il y a quand même des histoires assez carabinées de trac. Hein. Donc, ils ont tous eu le trac à un moment ou à un autre.
Bonjour Christophe André.
Bonjour.
Le psychiatre de Grand Bien vous fasse, l'un des meilleurs spécialistes de l'anxiété sociale. Vous avez notamment publié en poche avec le dessinateur Museau « Je dépasse mes peurs et mes angoisses ». Alors Romain Le Saffre, racontez-moi ce que vous ressentez lors de votre premier concert le 26 mai 1995 à 21h32, c'est très précis. Vous étiez batteur pour le mariage d'un cousin.
Oui, c'est ça, le premier concert, donc je ne suis jamais monté sur scène. Ça fait 6 mois que je fais de la batterie, donc c'est quand même assez récent. Et puis, tiens, on se dit, on va faire un concert. Et une heure avant, la boule dans le ventre commence à devenir très très présente. Et on se dit, mais c'est pas possible. Pourquoi ça? C'est pas maintenant. Ça ne doit pas arriver. Et donc, je luttais contre ça. Et une fois que je suis arrivé sur scène, pof, terminé. Le concert se passe super bien. C'est un énorme moment de plaisir. Là, typiquement, c'est le bon trac.
Et quelques années après, au sein de divers groupes, le trac est toujours là, mais il n'y a pas que la boule au ventre. Hein.
Alors oui, c'était assez intéressant chez moi, c'était très varié. Alors quand j'étais à la batterie, ça pouvait être la main qui ne voulait plus se serrer, qui ne tenait plus la baguette, ce qui n'est pas très pratique pour jouer. Ou alors les envies de pipi à répétition, je ressens 47 fois, c'est pareil, c'est un petit peu handicapant.
Dans votre cas, le trac apparaît selon les circonstances. C'est très variable, il peut arriver, survenir à n'importe quel moment.
Alors, par exemple avec l'Hernadette, on a joué à l'Olympia. Et c'est quand même une grosse date, il y a 6 mois de préparation pour remplir la salle. Et là, nickel, pas le trac. La semaine d'après, on joue à Vierzon, ce qui n'est pas tout à fait le même contexte. Et là, un gros trac qui arrive et impossible de savoir pourquoi. C'est ça qui rend dingue aussi, c'est pourquoi maintenant, qu'est-ce qui m'arrive, je ne comprends pas en fait.
Est-ce que le trac c'est un sujet tabou ?
Alors, j'ai l'impression, oui, parce que, allez voir sur Wikipédia, il y a 2 lignes. Pourquoi ? Mystère. Donc il y a ce truc aussi, c'est pas glam, déjà, hein, c'est souvent des histoires de toilettes, de choses qui sont pas très reluisantes, et puis on va parler d'émotions, comment on les gère, qu'est-ce qu'on en fait. Donc il y a une espèce de trou noir autour du trac, oui.
Et ça dépend des milieux professionnels, bien évidemment. Avouer son trac quand on est pilote de ligne ou chirurgien n'a pas le même impact que lorsqu'on est violoncelliste à l'Orchestre National de France. C'est pas...
Alors, dans le classique, en fait, c'est admis, le trac fait partie du jeu. Hein. Donc on sait bien que ça arrive. J'ai interviewé des gens qui faisaient de la danse classique, qui disaient le trac était programmé à telle heure. Ça arrivait de 17h à 17h30, et après on passait à autre chose. Et effectivement, quand on parle du métal, j'ai interviewé un chanteur de métal qui joue à le Fest. Bon, le fait de parler du trac, c'est une autre histoire.
Charles Laroche.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez parlé de la page Wikipédia en français. Je l'ai vu en anglais, le stage fright, et elle est beaucoup plus développée. Parce que c'est vrai que les chanteurs anglais admettent beaucoup plus facilement, enfin anglo-saxons, à voir le trac. Il y a Lady Gaga, il y a Adele qui disent qu'ils sont terrorisés à l'idée de monter sur scène. Il y a beaucoup d'humoristes qui l'admettent. Et je pense qu'il y a une part du travail qui consiste à l'accepter, à l'admettre et à se dire que finalement, c'est un lot commun de l'humanité. C'est une peur universelle et donc faut l'appréhender et il faut l'accepter.
On va essayer de mieux définir le trac. Hein. Le Robert nous dit que c'est la peur ou l'angoisse que l'on ressent avant d'affronter le public ou bien de subir une épreuve. Christophe André, comment définissez-vous le trac de votre point de vue de psychiatre? Quelles sont ses principales caractéristiques? Il s'agit bien sûr d'une anxiété sociale. Hein.
Oui, c'est une forme d'anxiété sociale très répandue, tellement répandue qu'effectivement on ne la considère pas comme une maladie puisqu'on évalue qu'à peu près un tiers des adultes ressentent le trac de manière régulière ou ponctuelle de temps en temps. Et donc c'est une anxiété de performance, c'est-à-dire c'est une anxiété qui se déclenche lorsqu'on est en situation de performance réelle. On passe un examen, un oral, une rencontre sportive où on doit jouer lors d'un concert, ou supposer, on a parfois des tracs qui se déclenchent dans des soirées où on est un peu intimidé, lors de rendez-vous amoureux, etc. Et ce qui caractérise cette anxiété de performance qu'est le trac, c'est qu'elle a des manifestations physiques extrêmement spectaculaires et parfois paralysantes. On a ce que vous décriviez dans votre lancement, c'est-à-dire les tremblements, alors la bouche sèche, les mains moites, de l'impression de tête qui tourne, qu'on va s'effondrer, évidemment la cavalcade du cœur qui démarre bien avant la situation d'ailleurs, puisque le trac il démarre en général de manière anticipée avant qu'on se lance dans l'action et il est assez souvent soluble dans l'action d'ailleurs, c'est la bonne nouvelle et c'est ce qui pour nous fait la différence entre le trac normal qui est soluble dans l'action et qui donc on est mal avant mais on arrive à affronter les situations, et le trac pathologique qui continue de paralyser même lorsqu'on est engagé dans l'action. Et donc, si c'est un examen, un concert, évidemment, tout ça est très embarrassant.
Constance Flamand-Rose, de votre point de vue de spécialiste de l'hypnose.
Alors effectivement, le langage du corps à ce moment-là, il est très puissant parce que c'est lui qui va nous paralyser. Et finalement, toute cette belle énergie devient paralysante alors qu'il suffit de redescendre un tout petit peu son corps, mais même physiquement, redescendre son corps un tout petit peu, ça veut dire ne serait-ce que, et ça je crois que c'est le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné, décrocher la mâchoire, desserrer, obligatoirement. On s'en rend pas compte, mais on a la mâchoire serrée. Donc on desserre la mâchoire, on baisse les épaules, on se force à baisser les épaules, et on respire par le ventre. Et là on descend, même de 2 cm. On descend de 2 cm et sur un espèce de curseur d'énergie, comme ça, au lieu d'avoir passé la ligne rouge qui fait qu'on a ce système nerveux, malheureusement, qui s'appelle sympathique, alors qu'il l'est pas tant que ça, qui carbure à fond, et ben justement on va descendre. À ce moment-là, le cerveau, il croit qu'on est bien parce qu'on a une position qui est une position de calme, et donc il va envoyer des informations de calme. Et tout de suite, en quelques secondes, on se calme.
Christophe André, rappelez-nous ce qu'est le système sympathique.
Eh bien, c'est un des deux grands deux grands systèmes nerveux qui ne dépendent pas de notre volonté, qui contrôlent les manifestations du corps. Donc il y a le sympathique, effectivement, qui est le système nerveux du stress, qui se déclenche tout seul dès qu'on perçoit qu'il y a un danger autour de nous, et donc accélération du cœur, crispation des muscles, etc. Et puis le parasympathique, qui lui se déclenche lorsqu'on respire lentement, lorsqu'on relâche ses muscles. Et effectivement, c'est le système qui freine le stress et qui le calme. Mais évidemment, le système nerveux sympathique, il se déclenche tout seul, c'est comme un signal d'alarme. Et le parasympathique, on peut apprendre à le déclencher, mais il faut s'entraîner. Et il faut effectivement recommander aux personnes qui ont le trac de faire à l'avance, de ne pas attendre le jour J, de s'entraîner à l'avance à des approches de relaxation, de méditation, de sophrologie et autres.
Romain Le Saffre, le trac, c'est un ressenti très subjectif. Chacun le reçoit et le ressent différemment. On le voit bien quand on lit les témoignages de votre livre.
Hein. Comme chacun est différent face à ses émotions, comme la peur est une émotion, chacun ressent différemment le trac. On peut arriver, comme on vient de le voir, à se récupérer, à se calmer tout seul, et d'autres n'y arrivent pas. Et c'est la boucle. En fait, plus on a peur, plus on envoie à son corps des signaux de peur, plus on a peur, etc. Et donc là, c'est impossible d'arrêter, quoi.
Mais au fond, pourquoi avons-nous peur de monter sur scène, de parler en public, de faire une compétition sportive très importante? Quel est le véritable danger? C'est quoi? C'est la peur du ridicule, le regard des autres, Charles Laroche?
Ah, le regard des autres. Évidemment. Je pense qu'il faut commencer par là, c'est-à-dire qu'on sait que c'est, avant même de parler de l'épreuve du grand oral du bac, c'est le simple fait de penser être jugé par les autres qui engendre tout un tas d'anxiété. C'est un phénomène naturel, presque, de vouloir faire une fuite en avant. Et ensuite, il y a le regard que l'on porte sur soi-même. Et ça aussi, c'est-à-dire qu'on se déforme, on se voit différemment de ce que l'on est réellement, on ne se sent pas légitime aussi, que ce soit à chanter ou à prendre la parole ou à performer en tant que comédien, etc. Et ça, c'est quelque chose, c'est la plus grande barrière qu'on se fixe, et celle qu'on se fixe à soi-même, et de se dire qu'on n'est pas à la hauteur de la situation. Et en fait, c'est pour ça que la prise de parole et le chant, c'est la somme de toutes les peurs, en fait. C'est des peurs sociales et la peur du regard de soi.
Oui, et pourtant, finalement, si on y réfléchit bien, on a déjà réussi un nombre de choses incroyables qui étaient simplement difficiles au moment où on a eu l'impression où on devait les faire, les accomplir. On se disait, je vais jamais y arriver. Et comme on les a passés, on se dit, en fait, c'était pas si compliqué que ça. Et si on arrive à revenir un petit peu là-dessus, à se dire, ça, je l'ai réussi, ça, je l'ai fait, j'ai les ressources pour ça, on va réussir ce grand oral.
Romain Le Saffre.
Il y a aussi le fait que l'homme soit un animal social et se prendre une gamelle ou être ridicule face à un public, c'est la peur d'être rejeté du groupe et donc d'être seul. Et le cerveau, lui, pour lui, être seul, c'est la mort.
C'est-à-dire que le maître mot ici, c'est vraiment la légitimité. C'est ça qui est le plus difficile à construire, c'est de se convaincre soi-même, notamment pour le grand oral, qu'on a travaillé sur un sujet, qu'on connaît le thème, qu'on est devenu un expert presque dans une discipline et que donc on est légitime et on est disposé à parler, à défendre un point de vue. Et ça aussi, c'est peut-être la dernière petite touche qui rend les choses compliquées dans le grand oral, c'est que c'est comme une négociation. Il faut exposer, argumenter et imposer son point de vue. Et c'est une logique de conflit qui parfois dérange.
Et puis Christophe André, notre cerveau ne sait pas faire la différence entre un danger mortel et une prise de parole en public ou le fait de monter sur scène.
Oui, notre cerveau, il est équipé depuis très très longtemps pour assurer notre survie, mais au moment où cet équipement a été construit par la nature, par l'évolution, eh bien notre survie, c'était des dangers physiques. Et donc, face au trac du jugement social, le cerveau continue de réagir comme si nous étions en danger physique. Et donc, c'est vrai qu'il y a une dissociation, un décalage. Mais moi, je voulais juste rajouter un mot sur ce grand oral. Rien que le mot « le grand oral », je trouve ça angoissant. Je ne sais pas si c'est la meilleure appellation qu'on pouvait proposer pour rassurer les candidats.
Alors, comme le remarque la psychiatre Stéphanie Ahusseau, que vous avez interviewé dans votre livre, Romain Le Saffre, nous n'avons pas été conçus pour nous exposer devant 500 ou 10 000 personnes. Pour notre cerveau, il analyse ça comme une situation dangereuse. Et il est assez logique que l'écrasante majorité des gens ont peur de parler en public.
Oui, c'est logique. Et c'est logique d'avoir peur. Et c'est logique que le cœur se met à battre très très fort, puisque quand on a peur, on a des réactions comme la fuite ou combattre. Donc le corps se prépare à être super puissant, et sauf qu'on est sur une chaise en train d'attendre ou dans le couloir, et là le cœur se met à battre très très fort, on transpire et on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive, je deviens fou, je suis malade, alors que pas du tout.
Charles Laroche.
C'est vrai qu'en plus, cette première période, c'est là où l'oral commence véritablement. C'est pas quand on commence à parler, c'est déjà quand on prépare et quand on est dans le couloir, en fait. C'est cette cérémonie un peu comme au service militaire, il fut un temps où en gros, on attend, il y a des gens qui rentrent dans un bureau, qui ressortent parfois dépités, parfois heureux, et ça aide pas à se sentir en confiance.
Il y a une chose qu'on n'a pas encore évoquée, c'est que le trac nous renvoie également notre perfectionnisme, au désir de paraître quasi parfait ou parfait aux yeux des autres, Constance Flamand-Rose.
Ouais, exactement, ça c'est l'image qu'on va renvoyer, mais qui vient de loin, hein, finalement. L'image du danger, l'image qu'on va renvoyer aux autres, qui reflète aussi celle qu'on a de nous-mêmes et qui va nous permettre de nous donner des pistes pour continuer à avancer, parce qu'on ne va pas s'arrêter au grand oral. Il va falloir continuer, donc il faut que ça ait marché.
Romain Le Saffre.
Bah, en fait, ce qui est assez perturbant avec le trac, c'est qu'on va passer d'un état A, l'état normal, à l'état B, l'état de la performance. Et moi, je compare souvent ça à Hulk. C'est-à-dire que il y a Bruce Banner d'un côté, et quand il devient Hulk, bah, il arrache sa chemise. Et le trac, c'est le fait d'arracher sa chemise. C'est pas forcément agréable, mais il faut passer par là pour devenir Hulk.
On touche peut-être ici à quelque chose qui est vraiment très français, c'est l'idée qu'il y aurait une parole parfaite. Et ça aussi, je pense que ça bloque beaucoup les étudiants en France. C'est que déjà, quand on parle, il faut qu'on ait la bonne réponse, donc la bonne réponse argumentée, presque mathématique. Et surtout, il faudrait que la parole soit sans aspérité, sans hésitation, ce qui est difficile, voire impossible. Et en fait, je pense qu'à partir du moment où on accepte qu'il n'y a pas de parole parfaite, peut-être qu'on se libère d'un blocage que l'on s'est fixé à soi-même.
Bonjour Julien Macarez.
Bonjour Ali.
Vous collaborez régulièrement dans notre émission. Vous êtes altiste, fraîchement diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, avec les félicitations du jury à l'unanimité. Vous êtes membre de Miroirs Étendus, une compagnie de création lyrique et musicale. Concert dimanche au Lille Piano Festival à 16h à l'auditorium du Conservatoire de Lille. Alors, selon une enquête, Julien Macarès, 90% des musiciens classiques éprouvent le trac avant de monter sur scène. Que ressentez-vous avant un concert ?
Alors, c'est ce qui a déjà un petit peu été dit. Personnellement, moi, c'est le cœur qui résonne très très fort dans la poitrine. J'ai un tourbillon dans le ventre. Vraiment, c'est vraiment l'image de la sensation de quelque chose qui tourne et qui électrifie tout le corps en même temps. À la fois un poids dans le plexus et un sentiment d'hypervigilance du corps, de sensibilité très forte à ce qui se passe, au moindre bruit, à la moindre chose qui va pouvoir qui advient autour et qui est même peut-être pas prévu dans ma propre préparation. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui passe alors que je suis en train d'attendre pour rentrer, et voilà, je vais remarquer le moindre mot, la moindre parole. C'est un moment assez intense en fait à ce niveau-là, et puis évidemment quelques tremblements du genou, du bras, de la main, voilà.
Ça doit empêcher de jouer toutes ces manifestations corporelles, Julia Macarez.
Ça peut empêcher de jouer. Après, ça dépend vraiment des personnes. Ça peut être complètement destructeur et ça peut aussi être porteur. Après, il y a aussi une différence entre la façon dont on vit le stress quand on joue et la façon dont c'est perçu. C'est pour ça que c'est très important aussi d'avoir des amis, et puis les professeurs, des gens de confiance qui peuvent nous faire des retours et nous dire sincèrement en fait ce qu'on entend, ce qu'on voit, pour essayer d'avoir un diagnostic un peu juste de vraiment ce qu'on donne. Par rapport à ce qu'on ressent, en fait.
J'ai l'impression que le trac n'est pas tabou dans le milieu de la musique classique.
Alors, c'est pas tabou, ça reste quand même très difficile d'en parler, surtout parce que selon les personnes, c'est plus ou moins intense, donc encore une fois, il faut savoir en parler avec des gens qui ont la confiance et qui auront les mots les plus justes possibles, en tout cas qui sauront se mettre à notre place, parce que même entre amis, sans parler de stress, c'est difficile aussi de se comprendre en fait entre quelqu'un qui se dit stressé et qui finalement réussit en fait à jouer, et quelqu'un qui a vraiment un stress destructeur. Donc il faut avoir les bonnes personnes pour en parler, mais c'est vrai que c'est ce que vous disiez au début de l'émission, ça peut être aussi porteur et le point positif, je dirais, c'est que ça nous force à être vraiment dans le moment, oui, dans l'instant, à être attentif à tout ce qui se passe dans le corps
et c'est Julia Macarez. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais c'est l'un des pouvoirs du trac, Romain Le Saffre. C'est très bien ce que nous dit Julia.
Voilà, le trac, c'est bien, en fait. Mmh. C'est le truc à retenir, c'est on n'est pas nul si on a le trac. Je l'ai entendu tellement de fois. Ah, je suis nul, pourquoi j'ai le trac? Bah, c'est normal, en fait. Donc, c'est bien d'avoir le trac. Le trac, ça met un coup de boost, ça rend présent. C'est génial, le trac.
Et puis ça doit rassurer aussi de voir que des gens qui ont un talent comme ça ont aussi le trac. Finalement, tout le monde a le trac à un moment ou à un autre, on est comme les autres.
Bien sûr.
On est tous pareils.
Finalement, faisons une comparaison, c'est si je devais être opéré par un chirurgien et s'il arrivait en dilettant dans le bloc opératoire, ça m'inquiéterait. Et en fait, quelque part, on est c'est presque une bonne chose d'être stressé, c'est la preuve qu'on tient à cœur le sujet qu'on va défendre.
Donc, Christophe André, sur le témoignage de Julia Macarez.
Oui, ça m'évoquait tous les musiciens que j'ai eu à soigner pendant ma carrière de psychiatre spécialiste de l'anxiété sociale. Et j'ai toujours pensé, et j'ai toujours vu que c'était encore plus difficile pour les musiciens classiques. Parce que finalement, pour un conférencier, pour un étudiant, on peut toujours se rattraper si on a commis une erreur, si on a bafouillé, si on a expliqué quelque chose de manière un peu floue. On a toujours la marche suivante pour se rattraper. Les musiciens classiques se mettent en général une pression telle qu'ils ne se permettent pas la fausse note. Pour eux, le bon concert, la bonne prestation, c'est la prestation parfaite, parce qu'ils savent que dans la salle, il y aura toujours des gens qui vont juger. Et donc, je crois que c'est un monde vraiment un petit peu à part. Mais ce que disait Julia, qui est fondamental pour toutes ces questions de trac, c'est faire confiance aux autres. C'est-à-dire avoir des personnes de confiance qui observent les répétitions, parce qu'on peut aussi s'entraîner pour des examens, des oraux, des épreuves sportives, etc. Hein. Des personnes qui assistent aux répétitions et qui nous disent ce qu'elles en pensent. Parce que très souvent, le trac, c'est qu'on surévalue la visibilité de ces symptômes, on surévalue la gravité des erreurs qu'on peut commettre, ou des faux pas, ou des approximations, et c'est très important d'écouter alors ce qu'on appelle le feedback, le retour des autres.
Restez avec nous, Julia Macarez, vous nous donnerez vos conseils pour surmonter le trac, et on verra dans quelques instants à quoi ça sert, hein, le trac. Nos experts vont essayer de vous répondre dans quelques instants. En attendant, on écoute Blondie, Call Me. Qu'est-ce que ça fait du bien, Blondie Call Me.
Moi, je vis avec des peurs, mais que j'apprivoise.
Grand bien vous fasse.
C'est un moteur pour moi. Tout ce qui paraît négatif, en fait, je trouve ça assez positif.
Sur France Inter.
10h32, comment surmonter son trac, comment en faire un pouvoir, élément de réponse avec nos experts. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000.
En fait, le trac, c'est une émotion de peur assez ancestrale qui se manifeste dans l'organisme par un mécanisme d'autodéfense face à un danger. Et la façon de réagir pour l'organisme, pour sa survie, c'est la lutte ou la fuite.
En fait, le grand responsable de l'histoire, c'est lui. Notre système limbique et ses réflexes archaïques. Si l'amygdale détecte une situation de danger ou l'interprète comme telle, le cerveau enclenche rien de moins qu'un processus de survie hérité de l'état sauvage. Pic d'adrénaline, accélération cardiaque et respiratoire.
Donc en fait, on peut simplement dire que le trac, c'est à l'origine associé à cette émotion de peur qui fait que ces manifestations ont permis la survie de l'espèce humaine.
Extrait d'une vidéo sur Arte Créative. Alors Romain Le Saffre, je rappelle que vous publiez L'étonnant pouvoir du trac. Ça sert à quoi le trac? Ça sert à faire joli?
Non, le corps.
Vous l'écrivez dans votre livre.
Parce que, comme j'ai dit, le corps n'a pas l'habitude de faire les choses pour faire joli. Donc, si on a le trac, c'est pour être boosté, en fait, ce qu'on vient de voir avec la peur. On va avoir tout ce qu'il faut pour être plus performant, pour pouvoir courir plus vite ou se battre plus fort. Et donc, le trac va nous permettre d'être plus présent et plus concentré.
Voilà. Mais peut-on dire que sans trac, pas de bon spectacle, pas de bonne compétition, ça fait complètement partie du processus de performance?
Alors, sur les 50 personnes que j'ai interviewées, ils m'ont tous dit ça. C'est-à-dire que certains, quand le trac était un peu trop faible, ils allaient le chercher pour être bien présent, pour être sûr d'être là, quoi. Et ce qu'ils disaient, c'est quand il n'y a plus de trac, il n'y a plus de vie, quoi.
Charles Laroche, avocat.
Oui, justement, c'est très drôle, ça, parce que je pense que quelque part aussi, dans le récit qu'on se construit, on est très heureux quand la performance se passe bien, justement parce qu'on a le trac avant. Et se dire, j'ai surmonté ça, et c'est ça qui décuple le plaisir et la fierté, parce que ça aussi, je pense que dans toute prise de parole, il faut avoir cet aspect des choses, c'est je suis fier de ce que j'ai accompli, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai proposé, de ce que j'ai réalisé.
Julia Macarez, je rappelle que vous êtes altiste, vous ressentez ça?
Oui, alors, en fait, il y a une chose que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est que je me suis rendu compte récemment qu'il fallait pas avoir peur de se sentir au moment où on va soit jouer ou peu importe rentrer sur scène, de pas avoir peur de se sentir osciller en fait entre la force qu'on peut ressentir et l'envie d'y aller, et en même temps le côté mais je vais m'enfuir en courant. Et en fait on passe de cet état de cet état de force et de cet état d'envie à ce besoin de courir et de s'enfuir d'une seconde à l'autre parfois, et en fait c'est pas grave, et en fait tant qu'on est préparé à ça et qu'on sait que ça peut arriver et que même si ça arrive on va pas s'enfuir en fait. On se sent déjà un peu plus ancré, un peu plus fort.
Conscience Flamand-Rose, je rappelle que vous êtes neuroscientifique de formation et hypnothérapeute. Le trac, ça permet d'être présent à soi.
Ça permet d'être présent à soi, à ici, à maintenant, à l'instant, à ce qu'on a à réaliser. Ça permet de se poser. Et tout à l'heure, pour donner juste un petit conseil aussi qui peut prendre 2 secondes, on a parlé de Hulk. Moi, je parlerais bien de Wonder Woman et de cette position justement de les pieds ancrés dans le sol, les mains sur la taille et le menton un peu relevé avec les pieds ancrés dans le sol. C'est je suis là, je suis présent. Les mains sur la taille, c'est je suis prête, et le menton, c'est j'y vais. La tête haute, c'est j'y vais. Il y a eu des études qui ont montré comme ça que c'est des études qui ont été controversées. On a montré le contraire après, mais que quand même on diminue le taux de cortisol quand on reste 3 minutes comme ça dans cette position-là. Donc allez-y, prenez une position de Wonder Woman
Hulk
ou de Superman.
Hulk et Wonder Woman, de belles références pour les élèves de terminale qui passent le grand oral dès le 21 juin. Charles Laroche.
Alors la posture, c'est très important effectivement. Je dirais même aussi pour le jour J, quand on va se présenter devant l'examinateur. Car le stress va se manifester par des gestes parasites. On va passer d'une jambe à l'autre, on va se tout caresser des cheveux, on va essayer de se les coiffer. C'est souvent ce que font les femmes qui ont les cheveux longs. Euh, les, les garçons vont avoir tendance à croiser les bras. Et donc ça, le conseil que je vous donne, c'est rester droit, effectivement, le corps forme un T. Et c'est là où les parents peuvent avoir un rôle très important en répétition, c'est de souligner en répétition tous les petits gestes qui parasitent l'attention.
Les hommes aussi peuvent avoir les cheveux longs. Pas dans mon cas.
Mais je les ai aujourd'hui.
Romain Le Saffre, vous jouez avec vos cheveux quand vous avez le trac.
Mais ça m'arrive, oui, complètement.
Tiens, on va écouter un extrait du JT de France 3 de cette année.
We have a problem. La phrase la plus glaciale jamais prononcée de l'histoire de la conquête spatiale.
Leandro démarre très fort mais très vite. Ses émotions le rattrapent.
Je recommence du coup.
Devant ses professeurs et ses camarades, il se prépare à passer son grand oral du bac.
Sur cette orbite translunaire. En ce qui me concerne, j'ai peur de faire des trous. Et du coup, j'en fais. Mais sinon, c'est un peu comme quand on joue du violon ou quand on fait du théâtre. Plus on répète, plus ça rentre et plus c'est naturel.
Au lycée du Sacré-Cœur à Amiens, on s'entraîne depuis le mois de mars. Le débit, la gestuelle et les tics de langage sont passés au crible.
On s'entraîne en vue de bien parler et c'est primordial pour une bonne vie professionnelle plus tard.
Non, vous connaissez pas.
Les élèves seront évalués à la fois sur le fond et la forme par un jury composé de deux enseignants. Les épreuves débuteront le 21 juin.
Extrait du JT de France 3 du 5 juin dernier. Alors à ce stade de l'émission, j'aimerais que l'on donne des conseils à ceux qui vont bientôt passer le grand oral du bac à partir du 21 juin. Comment surmonter le trac? Comment éviter de bafouiller, de perdre ses moyens et même de pleurer? Alors Charles Laroche, on part évidemment du principe qu'on a bien travaillé et qu'on a solidement préparé l'oral. Hein. C'est une base.
Alors c'est une étape sur laquelle je ne peux pas aider les étudiants. S'ils n'ont pas travaillé, ça va être difficile. Mais c'est vrai que les Romains disaient « connais ton sujet et les mots suivront ». Donc c'est la légitimité qui va aider pour la confiance en soi. Il y a, par rapport au témoignage de cet étudiant, il faut quand même souligner un truc. On a beaucoup parlé de musique et de théâtre jusqu'à présent, mais il faut faire attention à une chose, c'est qu'on est dans une épreuve non pas de récitation, mais de conviction. Et il faut s'engager avec le corps, avec la voix et utiliser la structure pour convaincre les deux examinateurs de la justesse de son propos. Et de ce point de vue-là, il faut éviter, je pense qu'il y a, je peux dire juste en trois mots, premièrement c'est la posture, faire attention à ne pas parasiter le message avec des gestes, la voix, faire attention à son débit de parole, parler de sorte à être compris, utiliser les silences pour souligner les efforts de structure. Et puis la dernière chose aussi, c'est savoir bien commencer et savoir bien terminer pour que l'examinateur comprenne que le propos est terminé.
Romain Le Saffre, vos conseils pour ceux qui vont passer le grand oral à partir de la semaine prochaine?
Alors pour aller dans le sens de ce que dit Charles, effectivement on a tendance à parler très vite parce qu'on est stressé et donc on parle très vite. Et comme on parle très vite, c'est plus difficile de suivre les infos et le jury va un peu plus lâcher. Donc l'idée c'est de parler le plus lentement possible, même parler comme ça à l'intérieur, c'est-à-dire que le débit avec le stress va être à peu près normal. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en général on intègre l'info avant et pendant on l'oublie parce que on a peur. Donc moi j'ai une petite astuce, c'est que j'ai fait un peu de radio et j'ai marqué dans ma main ou sur ma fiche parle moins vite connard. Donc ça me faisait rigoler et du coup ça détend, l'info est passée. Et hop, on parle moins.
Le conseil de Constance Flamand-Rose. Alors moi, peut-être des outils d'auto-hypnose.
Oui, peut-être un petit peu en amont aussi. Mmh. Parce que si quelques jours avant. Déjà, se remémorer avec nos cinq sens, toujours en faisant fonctionner nos cinq sens, un moment de réussite, quelque chose qu'on a déjà réussi. Même la plus petite réussite, votre dictée de CM2, elle était parfaite. Le moindre petit truc, voilà, quand est-ce que vous avez su que vous avez réussi? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour arriver à cette réussite? Et puis, qu'est-ce que ça vous a fait? Le plaisir de la réussite, et c'est ça qui va devenir le but. Le but, c'est pas l'oral, c'est le plaisir d'avoir dépassé ça.
Christophe André, vous devez nous quitter. Peut-être un conseil pour nos élèves de terminale, un conseil de respiration, de cohérence cardiaque.
Alors, peut-être un conseil encore plus simple que ça, c'est-à-dire ce n'est que le grand oral. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il faut simplement faire de son mieux. On ne demande pas au candidat d'être parfait, d'être comme un avocat dont le sort du client dépend de la plaidoirie, ou d'être comme un virtuose avec plein de critiques dans la salle lors de son concert. Vous êtes juste un candidat au bac qui, s'il a bien révisé, s'il prend le temps effectivement de respirer, de ne pas parler trop vite et de faire confiance à la bienveillance du jury, le jury en face de vous, il n'est pas là pour vous désinguer. Il est là pour vous écouter, pour vous donner le temps de développer vos qualités. Donc, ne vous prenez pas trop la tête, préparez-vous bien, révisez bien, respirez et faites confiance aux gens que vous avez en face de vous.
Et à propos de respiration, vous pouvez juste nous donner cet outil d'urgence, entre guillemets, qui est la cohérence cardiaque, qui est très important. Vous en parlez dans votre livre, Romain Le Saffre. C'est très important, Christophe, d'avoir cet outil à portée de main.
Ben, c'est-à-dire, ça c'est très important quand vous êtes en train d'attendre votre épreuve, de pas laisser votre cerveau se faire embarquer par le trac, par les images apocalyptiques, ça va pas marcher, je sais plus rien, j'ai plus rien dans la tête. Ça c'est normal que juste avant de démarrer l'épreuve, on ait perdu ses repères. Et donc, le mieux à ce moment-là, au moment où vous êtes en train d'attendre, c'est de simplement se centrer sur la respiration. Bien sentir chaque inspiration, chaque respiration, parce que non seulement ça va vous apaiser et vous faire du bien, mais ça va ramener le calme dans votre cerveau, vos connaissances vont revenir à la surface et être prêtes après à sortir lorsque vous prendrez la parole.
Inspirez 4 à 5 secondes, expirez dans le même laps de temps, essayez pendant 2, 3, 4 minutes si on y arrive, et si on peut anticiper quelques jours avant, le faire 2 à 3 fois par jour, selon son rythme, voilà, comme ça on peut utiliser cet outil le jour J. Romain Le Saffre.
C'est vrai pour le jour J, et c'est vrai aussi pour toute la vie, c'est-à-dire que si on pratique tous les jours de la cohérence cardiaque, ça va vraiment avoir un effet bénéfique sur la gestion des émotions, bien sûr.
Julia Macarez, avant de nous quitter, un petit conseil, vous qui êtes une grande traqueuse devant l'éternel.
Oui, alors bah en amont, il y a deux choses. Moi, je sais que personnellement, le sport, ça m'aide parce que ça m'aide à... Alors, même si c'est pour des raisons différentes, mais juste habituer le cœur à battre fort et s'habituer à ressentir le cœur s'emballer, ça c'est, je pense que ça peut aider. Et puis aussi pas mal de visualisations, que ce soit avant de s'endormir ou même dans la rue quand on marche, de juste s'imaginer l'endroit, s'imaginer les gens, s'imaginer en train d'aller de la salle de répétition à la salle en question, enfin la salle où on va faire le grand oral, où on va jouer. Et vraiment se refaire le film, je pense que ça aide sur le moment à juste à être habitué et à pas être dans l'inconnu. Et puis sur le moment, moi j'essaie de penser à la chose la plus importante que j'ai envie de donner. Alors personnellement, ce serait le son, mais pour un oral par exemple, je sais pas s'il y a des mots en particulier qui nous tiennent à cœur, ou si c'est la façon de poser la voix ou la diction, enfin j'en sais rien, mais une chose en particulier qui nous tient à cœur particulièrement dans la performance, dans le concert, et s'y accrocher.
Merci beaucoup Julia Macarez, on pourra vous applaudir dimanche à 16h à l'auditorium du Conservatoire de Lille avec votre compagnie Miroirs Étendus. Vous jouerez quoi d'ailleurs dimanche?
Alors on va jouer, il y aura le triple concerto de Beethoven pour violoncelle et piano, avec trois magnifiques solistes, Romain Louveau, Fiona Mombé et Michel Pierre. Et puis il y aura aussi du Wagner, des leaders magnifiques.
Ça donne envie, ma chère Julia. Charles Laroche, vous vouliez ajouter quelque chose?
Alors oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier qu'il y a trois temps dans cette épreuve. Il y a un temps d'échange et de questions, et il y a aussi un temps où on doit parler de soi. Et sur le temps d'échange, il faut faire attention. C'est quand on vous posera une question, ça ne veut pas dire que vous avez raté. C'est peut-être pour vous challenger ou pour approfondir un point. Et c'est vrai que ça, je pense qu'il faut faire attention même aux réactions physiques, parce que les élèves peuvent avoir tendance à se décomposer dès qu'ils ont l'impression de ne pas avoir donné la bonne réponse.
Et avec ce grand oral, on peut essayer, Romain Le Saffre, de transformer la performance en jeu. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein.
Alors, c'est sûr, mais effectivement, il y a une telle pression, et on se dit, finalement, est-ce que je pourrais pas me dire, tiens, je viens prendre du plaisir, j'ai une histoire à raconter, même si je la raconte mal, j'ai la parole, c'est génial d'avoir la parole, en fait. Et retransformer les choses comme ça, en y allant, en disant, bon, j'ai peur. Enfin, j'y vais, mais j'ai peur, en l'occurrence. J'ai peur, mais ça me fait plaisir d'y aller, parce que on me donne la possibilité de dire quelque chose. C'est génial, en fait. Donc, c'est de pouvoir comprendre que c'est un tout, c'est aussi de la peur et c'est aussi du plaisir.
Bonjour, Christiane.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez du beau département de l'Isère. Quel est votre témoignage?
Bien, moi, je suis auteur, compositrice, interprète. J'ai fait ça... grande partie de ma vie, enfin toute ma vie. Et vraiment, la chanson m'a sauvé la vie, parce que quand j'étais adolescente, j'étais devenue hyper timide. Et dès que je devais arriver quelque part, je me disais comment je vais faire pour entrer en relation avec les gens. J'arrivais avec une guitare je commençais à jouer de la guitare, je savais 3 accords. Et en disant, pourvu qu'on me demande de chanter une chanson, et quand on me demandait de chanter une chanson, on me disait, vous avez une guitare, oui, vous faites quoi? Ben, je reviens de mon cours. Ah bon, vous prenez des cours, oui, puis je chante aussi. Vous voulez pas nous chanter? Et puis c'était parti. Mmh. Et après, je suis tombée dans la chanson par hasard, et puis sur scène. J'ai eu une seule fois le trac, c'était à la Mutualité, pour traverser toute la scène depuis les côtés jusqu'au micro, parce que la scène est grande. Arrivé au micro, c'était terminé. Mmh. Et même maintenant, j'ai toujours le trac quand j'ai pas de guitare entre les mains. Ah, j'ai été une fois invité à un colloque pour raconter une expérience de collectage que j'avais fait dans les bassins miniers. Mmh. J'avais bien préparé mon truc, et puis j'ai commencé, alors je vais vous raconter ça, ça a duré 10 minutes, puis au bout de 10 minutes, j'ai dit, attendez, je vais vous montrer. J'ai pris ma guitare, puis là, c'était terminé.
Christiane, si je vous demandais de chanter quelque chose là avant le disque,
oui,
ça vous dit? Allez,
oui.
Allez-y.
Je vais vous chanter une chanson qui est mon tube et qui se balade dans toutes les maternelles.
Allez-y.
Qui s'appelle La Maison Citrouille.
La Maison Citrouille.
Une maison citrouille, ras petit peton, le soleil est rond. J'habite une maison citrouille, ras petit peton, le soleil est rond. J'aime les grenouilles et la pluie qui mouille et l'omelette au hanneton. Et l'omelette au hanneton. Tape tes genoux, frappe tes mains, claque tes doigts. Voilà, il y a d'autres couplets.
Et vous savez, Christiane, que je suis un amateur d'omelette au hanneton. Voilà, je vais me faire ça à midi d'ailleurs. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Christiane, c'était très sympathique. Dans quelques instants, l'ami Bruno Solo nous parlera de son rapport au trac et comment il le surmonte. En attendant, eh bien, on écoute Monsieur Giscard. Oui, c'est son nom, Monsieur Giscard, qui interprète pas personnel.
Je fais la merde quand t'es pas là, j'passe sans tes bas, j'passe tant que t'es là, j'passe tant que ça, j'ai la merde, tu comprends pas. J'veux pas de toi, non, j'veux pas de toi. Mais c'est pas personnel, les autres sont plus belles. J'suis sous Jack Sommière, quand tu seras belle. Mais c'est pas personnel, les autres sont plus belles. J'suis sous Jack Sommière, quand tu seras belle. Mais c'est pas personnel.
Merde. Bon, bah vas-y, on le fera après ça.
Pêcheuse, c'est que tu me plais pas, en vrai j'ai pas confiance en moi. Si t'es belle, je parlerai pas, donc si t'es belle, mon casse-toi. Je ne suis jamais vraiment moi, pas brûlé, ça compte pas. Je les compte sur mes doigts, donc le prends pas pour toi, non, pas pour toi. Yeah. Mais c'est pas personnel, les autres sont plus belles. J'suis sous Jack Sommière, quand tu seras belle. Mais c'est pas personnel, les autres sont plus belles. J'suis sous Jack Sommière, quand tu seras belle. Mais c'est pas personnel, pas personnel. Personnel, pas personnel. Mais c'est pas personnel, pas personnel. Personnel, pas personnel. Mais c'est pas personnel.
Monsieur Giscard interprété pas personnel.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebéi.
11h-10, comment surmonter son trac, comment en faire un pouvoir, une force? Élément de réponse avec nos experts, écoutons le comédien André Dussolier.
Embrasser le trac, sans faire un allié.
Voilà, c'est parti, le trac.
C'est la leçon du jour, signée André Dussolier.
Il n'est pas question de laisser cette chose-là, cet alien, vous envahir et abîmer tout le travail que vous avez fait, quoi. C'est-à-dire que ça se répand comme une tache d'encre, quoi, qui pourrait vous gagner complètement et vous immobiliser complètement, vous tétaniser.
Dans donc, tout votre corps.
Oui, le trac. Monstre, le pire, c'est la bouche, parce que ça vous enlève la salive et vous pouvez plus parler, enfin, surtout quand on a un monologue, etc.
Vous faites quoi, alors?
Il faut le banaliser, le trac. Il y a plusieurs solutions. Je respire. Je cours, je peux piquer un 100 mètres. pour essayer de que le corps, physiquement, éloigne cette espèce de chape de plomb qui est en train de me gagner, par exemple. Mais je sais pas, j'ai l'impression que petit
à petit...
Et boire
un petit coup ?
Non, mais j'ai connu...
Un petit joint, on montait sur scène ?
Non, non, mais je sais que ça se pratique, mais ça, non.
André Dussolier dans l'émission Stupéfiant sur France 2 en 2019 et on accueille Bruno Solo. Bonjour Bruno Solo.
Bonjour les amis.
Comédien, scénariste, producteur, réalisateur, animateur, vous intervenez dans le livre de Romain Le Saffre qui vous a interviewé. Comment vous vivez votre trac? Est-ce que vous le vivez? Comment ça se manifeste chez vous?
Un peu comme tout le monde, comme tous les gens qui le vivent. Effectivement, André Dussolier le disait bien. Effectivement, une des premières manifestations physiques, c'est la bouche sèche, et qui fait que tout d'un coup, vous êtes vous paniquez à l'idée de ne pas pouvoir exprimer ce pourquoi vous vous êtes préparé. Parce qu'en fait, le trac est formidable, en fait, parce que c'est une angoisse et une exigence à la fois. C'est une angoisse nécessaire parce que ça vous permet de rester vigilant, de ne pas vous dire que tout est acquis, que vous arrivez de ne pas être trop sûr de vous, et donc de ne pas surjouer ou de ne pas cabotiner, par exemple. Mmh. Là, je parle de l'exercice de comédien. Mais aussi, c'est la preuve d'une exigence, parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur pour un public qu'on a le devoir et le bonheur de respecter. Hein. C'est ça, quand même, notre première mission, c'est de jouer pour des gens qui nous écoutent, qui se sont déplacés pour nous voir, voire qui ont payé, parfois, pour nous voir. Donc, c'est la moindre des exigences. Et donc, c'est la preuve qu'on est exigeant vis-à-vis de ce qu'on se croit capable de faire. On se dit, je suis capable de les émouvoir, de les faire rire, de les faire pleurer, de les transporter. Donc cette exigence, elle est tellement forte que effectivement, il y a un trac nécessaire qui s'empare de nous. On n'a pas le droit d'arriver détendu quelque part. Donc le trac, dès lors qu'on apprend à le maîtriser avec toutes les techniques qu'on retrouve dans le livre de Romain, Château Brutal, votre favori, mais aussi grâce à effectivement, à l'expérience de ceux qui l'ont vécu, ceux qui le maîtrisent, ou ceux qui s'en servent comme une force, en fait, quelque part, je crois que c'est nécessaire. J'imagine que vous... J'écoute pas l'émission depuis le début, pardon, parce que j'étais ailleurs, mais vous avez peut-être cité cette très fameuse phrase de Louis Jouvet, vous avez peut-être même ouvert l'émission là-dessus, Louis Jouvet qui disait à une comédienne qui n'avait pas le trac, et qui lui répond, vous en faites pas, mon petit, ça vient avec le talent. C'est-à-dire qu'effectivement, avoir des certitudes, ça vous fige. Avoir des doutes, ça vous permet d'avancer. Et effectivement, moi je marche beaucoup. Moi, mes pensées viennent en marchant. Et c'est Dominique Pinon, avec qui j'avais fait une pièce il y a quelques années, qui m'avait dit que de toute façon, on a toujours peur du texte et que le texte, il vient avec les pieds. Et c'est vrai que c'est à partir du moment où vous commencez à faire vivre votre texte, où vous commencez à vous déplacer avec votre texte, que vous le faites vivre à l'intérieur de vous et que là, vous chassez aussi de mauvaises angoisses, celles de la mémoire dont vous avez toujours peur qu'elle flanche, alors que la mémoire, en fait, elle flanche rarement. C'est votre œil qui vous trahit, c'est rarement vos oreilles, par exemple, aussi. Votre œil vous trahit parce que tout d'un coup, vous avez un trou, parce que votre partenaire fait un geste qu'il ne faisait pas la veille. Il a la liberté de pouvoir le faire et vous, il faut être attentif. Si votre oreille est attentive au texte et à son rythme, vous ne vous tromperez jamais. Donc déjà, ça chasse le trac. Avoir confiance en ses partenaires. Alors évidemment, quand c'est un monologue ou quand vous êtes un seul en scène, eh bien là, il faut faire confiance tout simplement à votre corps. Voilà. Mais c'est une angoisse nécessaire et une exigence immense. Donc il faut garder cette exigence, il faut garder le trac, mon avis.
Et vous citiez Louis Jouvet, je crois qu'il citait lui-même Sarah Bernard.
En parlant de cette phrase.
Exactement. Charles Laroche.
Le souhait que je veux formuler pour les élèves qui vont passer cette épreuve, c'est vraiment appréhendez votre trac et faites de la parole une arme pour la vie, parce que ça va faire de vous des meilleurs citoyens, des gens qui ont le pouvoir de demander ce qu'ils veulent, même pour demander une augmentation, quelque chose de banal, et ça va bientôt les concerner. La parole, c'est une arme absolue. Donc vraiment, faites de cette épreuve une chance.
Romain Le Saffre.
Oui, c'est vrai qu'on apprend d'ailleurs souvent sur l'estrade, quand on est tout petit, à stresser à cause de ça, et on devrait expliquer aux enfants que c'est chouette la parole, allez-y, c'est joyeux aussi de ça arrive de bafouiller, faut bien apprendre, apprendre à parler en public, c'est comme apprendre toutes les autres choses, donc apprenons, plantons-nous pour avancer, quoi.
Constance Flamand-Rose.
Et si le trac peut être transformé en belle énergie et en faire son compagnon, son copain, celui qu'on emmène avec nous et qui du coup va nous soutenir, le transformer un petit peu comme ça, lui donner même un visage, essayer de le visualiser, de l'emmener avec nous, il nous tiendra par la main, il va nous porter, puis surtout il va nous accompagner toute notre vie et vous êtes formidable de toute façon, donc ça va le faire.
Bruno Solo, un petit conseil, il nous reste une poignée de secondes pour les élèves de terminale qui vont passer le grand oral du bac.
Eh bien, se projeter déjà dans l'idée qu'ils l'ont, et qu'ils l'ont eu parce qu'ils ont parfaitement bien parlé. Les mots, c'est des munitions pour se défendre. Donc, ils les utilisent toutes, et puis qu'ils n'aient pas peur, effectivement, qu'ils ferment les yeux, qu'ils s'imaginent que, de toute façon, tout ça, c'est gagné d'avance. Voilà.
Et puis, Romain Le Saffre, il faut aussi s'interroger hein, sur l'origine du trac, pour terminer en quelques secondes. C'est parfois parce qu'on n'a pas assez travaillé.
Oui, alors, ça aussi, parfois, on travaille pas assez, et on se dit, c'est peut-être pas un hasard. Comme ça, on est sûr de se planter, comme ça, on est tranquille.
Charles Laroche, hein.
Oui, effectivement, on peut plus faire grand-chose à ce stade, hein, nous. Mais en revanche, c'est vrai que même lorsque vous n'avez pas travaillé, je peux presque conseiller à des élèves d'avouer qu'on n'a pas la réponse à la question plutôt que d'essayer de se planter. Peut-être que ça permettra d'avoir une chance au rattrapage.
Un mot de conclusion, Romain Le Saffre.
C'est vraiment. Il y a tellement de choses à dire. Oui, c'est vraiment important pour le grand oral du bac de répéter dans les mêmes conditions, les conditions les plus proches possibles que l'oral à la maison autant de fois qu'il faudra. Et quand ça sera réussi, vous allez ancrer le fait que c'est réussi. Et donc vous arriverez au grand oral en disant j'ai déjà réussi.
Et n'oubliez pas de modifier la position de votre corps. Et ça, ça va vraiment tout changer, et pour vous, et pour le regard de l'autre.
Merci Bruno Solo. C'est quoi votre dernière actualité? Tiens, profitons-en.
Je suis en train d'enregistrer la saison 5 de ma série sur l'histoire.
Ah, sur France 5, qui est formidable. Qui est formidable.
Saison, et voilà. Et j'ai un livre qui sort bientôt. Voilà.
À la rentrée, je vous conseille.
On en reparlera. Merci beaucoup. Merci Constance Flamand-Rose. Merci Charles Laroche. Brillez à l'oral pour les nuls et publié chez First. Et merci Romain Le Saffre. L'étonnant pouvoir du trac est publié chez First. Bah tiens, citez votre livre quand même, Constance Flamand-Rose.
Le corps est le seul langage qui ne ment pas, évidemment.
Merci beaucoup. Demain, comment, c'est un autre sujet, comment Napoléon a changé notre quotidien. On s'intéressera également au style Napoléon et à ses goûts esthétiques. Voilà.